Vous entrez dans les ateliers de la nuit. Est-ce qu'il y a des sons qui font du bien? Des sons qui font qu'à l'écoute, vous vous sentiriez mieux. Cela nous donnerait un pouvoir incroyable, on pourrait imaginer, soigné par la radio. Thomas Baumgartner a décidé de commencer l'atelier du son par ça, l'idée d'une musique qui fait particulièrement du bien, qui calme ou qui permet à l'esprit de partir ailleurs, de s'éloigner du concret de sa tête, sa peau, ses mots. Et si tout partait du rapport entre le son et le corps, ou plus précisément du rapport entre le son et le soin? C'est le sujet de l'atelier, médecine et son. Ça peut aussi commencer avec le battement du cœur. Là, on va dans le sens inverse. Le son sert d'indice au soignant. Le son est une preuve du vivant. Même si là, on pourrait tricher. La radio pourrait aller plus loin que la vie. Elle peut enregistrer. On pense à Christian Boltanski, qui a mis à l'abri dans une île japonaise, Teshima, dans la mer intérieure de Seto, des centaines d'enregistrements de battements de cœur. Le son nous ferait vivre plus longtemps. Témoignage de notre vie, de notre cœur, par un simple battement. Le son est partout dans le moment du soin médical. Il y a mille façons d'aborder le sujet, en voilà déjà une, et a priori, ça ne fait pas de mal. Thomas Baumgartner ne veut que votre bien.
Glenn Gould, les variations Goldberg. La légende, forcément contestée, veut que les variations Goldberg, circa 1740, furent composées par Jean-Sébastien Bach dans le but d'atténuer les insomnies de leur commanditaire, le comte Kesselring. Musique et soins, son et thérapie, médecine et son, voilà une thématique qu'il fallait qu'on aborde un jour dans l'atelier du son. Quiconque a passé un examen médical sait que le son est fondamental, que ce soit le silence encombrant d'un cabinet médical, surtout quand c'est vu du côté du patient, ou le bip-bip d'une machine qui mesure ceci ou surveille cela, ou une alarme d'une chambre voisine, ou la voix du thérapeute, le son est partout, autour du soin, autour du patient, autour du médecin. Et pour aborder ce vaste sujet, nous avons avec nous ce soir, autour de la table de l'atelier du son, Gaëlle Perrault-Brenzinger. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes infirmière à Rouen, au centre hospitalier du Belvédère, c'est ça?
Tout à fait.
Et vous avez signé, il y a quelques années, un mémoire lors de vos études sur la sonorité au bloc opératoire.
Voilà. Oui.
Et on va pouvoir en parler ce soir, ça va nourrir la conversation. À côté de vous, il y a Isabelle Julien, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes musicothérapeute et secrétaire général de l'Association française de musicothérapie. À côté de vous, il y a un homme de l'art, un homme du son, un ingénieur du son, Emmanuel Favreau, bonsoir.
Bonsoir.
Vous travaillez, vous êtes ingénieur du son au GRE, mais par ailleurs, vous avez travaillé avec votre voisin de gauche, qui est le docteur Isartel, bonsoir.
Bonsoir.
Vous travaillez ensemble, vous avez développé une méthode, un logiciel qui s'appelle Hyperion, où la manipulation du son et l'écoute de ce son-là, tout ça est fondamental. Et on va commencer par vous, justement. Comment un médecin et un ingénieur du son se rencontrent, à quelle occasion, autour de quel projet? Ça fait plus de 20 ans, je crois, que vous travaillez ensemble.
Ben, on a commencé effectivement dans les années, à la fin des années 90, donc ça fait une vingtaine d'années. Alors à l'époque, Jean-Michel Isartel recherchait un système qui permettait de filtrer le son. Donc en regardant un peu s'il existait sur le marché, il avait vu qu'une station de Pro Tools, fait, pour la nommer, qui est habituellement plus utilisé pour faire du montage audio, pour faire de la musique, etc., permettait de faire du filtrage. Et donc, il m'a demandé si je pouvais l'aider à mettre en place ce système.
Parce que vous êtes un duo d'inventeurs, est-ce qu'on peut dire ça, docteur Isartel ?
Oui, je pense qu'on a inventé, déjà avant même de rencontrer Emmanuel Favreau, on avait fait un appareil en 1989 avec le docteur Dominique Bourdin qui s'appelait Olopson. Mmh. C'était le premier appareil de cure sonique en oreilles séparées par rapport à Bérard et Tomatis qui traitaient les deux oreilles en même temps de la même façon. Mmh. On a été les premiers, les pionniers. Et quand j'ai connu les détails du fonctionnement de cet appareil-là, j'ai été très insatisfait, car le filtrage analogique est en fait très peu précis. Et donc, dès 90, que j'ai eu bien l'expérience, j'ai cherché un filtrage numérique. Et c'est avec Pro Tools et l'aide, bien sûr, d'Emmanuel Favreau, au sein d'une association où on travaille tous les deux, qu'on a fait la première musicothérapie réceptive en 95, c'était Hyperion 1 en filtrage numérique. Alors, et en oreille séparée.
Qu'est-ce qu'on appelle un filtrage, Emmanuel Favreau, en la matière ?
C'est un système qui va permettre d'amplifier ou d'atténuer certaines fréquences. Donc, par exemple, les aigus ou les graves, ça plus ou moins fort ou atténué. Et dans le cas de la méthode Hyperion, il est nécessaire d'avoir des bandes extrêmement fines et que l'on peut, par exemple, entièrement couper ou amplifier énormément.
Des bandes, ça veut dire, ce sont des...
Comme des petites tranches.
Des tranches de fréquence.
De son, des tranches de fréquence.
Alors, la cure sonique, docteur Isartel, vous avez dit ce mot-là, cette cure sonique à base de filtrage, donc vous avez parlé de méthode réceptive, on a compris qu'il s'agissait de réception du son, elle agit sur quoi et dans quel cas ?
Alors, cette musicothérapie que maintenant j'appelle plutôt cure sonique réceptive, d'abord s'écoute au casque. Et je n'ai pas d'explication formelle sur la physiologie de ce qui se passe entre les oreilles et le cerveau. Je ne sais pas. Là, je donne ma langue au chat. Je ne sais pas. En revanche, je peux vous parler des anciens. Tomatis a commencé à poser des brevets en 1956.
Alfred Tomatis. Une figure fondamentale quand il s'agit de musicothérapie.
Voilà, le pionnier. Et ensuite, un de ses élèves, le docteur Guy Bérard, ORL à Annecy, a créé un deuxième appareil. Il avait compris qu'il fallait couper les pointes pour ne pas stimuler les angoisses, les hypersensibilités du patient. Donc, moi, j'ai connu la méthode Bérard, comme ça, par une patiente qui m'a dit « J'ai fait la méthode Bérard, je vais 100 fois mieux. » Et la semaine suivante, je rencontrais Nicole Ricaille qui pratiquait, avec qui je suis toujours en contact d'ailleurs. Elle m'a enseigné la méthode, elle m'a montré... Et je lui ai envoyé quelques dizaines ou centaines de patients pour valider que ce n'était pas un cas isolé, mais que les gens, les patients allaient mieux. Alors, en quoi vont-ils mieux ? Déjà, les adultes. Les adultes, ils vont mieux quand ils ont des troubles psycho-affectifs, des angoisses, des insomnies, des petites dépressions, manque de confiance. Ils vont mieux quand ils sont, par exemple, en difficulté d'apprentissage lors d'une formation ultérieure, quand ils ont des difficultés pour apprendre les langues. Et nous, on les traite avec une musique filtrée, équalisée, qui leur est propre, vraiment spécifique. Et puis les enfants, eh bien, c'est les troubles de comportement, c'est les difficultés scolaires, les enfants émotifs, ceux qui manquent de confiance, les agressifs, les mordeurs. Et ceux qui sèment la tyrannie à la maison. Ceux qui ont du mal à répéter les mots convenablement, on leur ouvre l'audition et tout le monde est amélioré.
Alors voilà. Ça vient de ce que le dernier exemple que vous donnez vient, j'ai l'impression, directement des observations même du docteur Tomatis. Pour lui, ce qui passait par la voix était directement ce qui arrivait dans l'oreille. L'une était l'image de l'autre. Et vous dites, j'ai lu ça quelque part, l'oreille est la fenêtre du système nerveux.
Oui, alors ça, c'est une théorie que j'ai... parce que j'adore la médecine intégrative. La santé intégrative, on a fait un journal qui s'appelle Santé intégrative. Et je ne voudrais pas présenter la cure de musicothérapie comme la seule chose dont je m'occupe. Pas du tout. J'étais, je vous le disais tout à l'heure, au bloc opératoire, je suis ostéopathe, etc. Donc, je suis intéressé par plein de choses. Je pense que l'oreille, au même titre que les yeux, alors le nez et le goût, je ne sais pas trop quoi en faire, et le corps dans son ensemble par l'ostéopathie, sont modelables à la fois, si vous voulez, en voyant quelqu'un marcher, on peut voir comment il fonctionne, et en voyant son test d'écoute, c'est-à-dire le test que l'on fait avant la musicothérapie, on voit un petit peu son profil, sa personnalité. Donc ce que je souhaiterais, c'est développer avec d'autres, il y a d'autres personnes qui travaillent sur les yeux, des outils qui travaillent sur les cinq sens, de façon à pouvoir corriger les cinq sens et qu'ils n'aient pas des aberrations visuelles, auditives ou autres, pour mieux fonctionner. L'idée, c'est de mettre les gens dans le meilleur système pour eux. Ce n'est pas de les profiler.
De les normer.
De les normer. Mm-hmm. Hein.
C'est ça la médecine intégrative, ce que vous appelez
médecine intégrative. Alors la médecine intégrative, je dirais que c'est une médecine qui accepte de concevoir le psychisme et le physique comme les deux extrémités de la même entité et qui accepte aussi bien la médecine classique occidentale que les médecines alternatives et complémentaires, et ce, de façon conjointe, voilà, et non pas de façon discordante. Et
alors, depuis 2005, il y a Hyperion 2 qui existe, c'est ça ?
Ah ben, Hyperion 2, c'est-à-dire qu'avant, on travaillait, on faisait les tests sur une machine, j'avais acheté Pro Tools, des ordinateurs, il y en avait une vraie colonne, il y en avait pour une somme folle, et ça marchait très bien. Mm-hmm. Mais aujourd'hui, on en a parlé longuement. Alors, on a un petit PC, une carte son, un logiciel, on a la musique qui est dans l'ordinateur, on fait les tests. Alors, on a deux casques. Hein. On fait les tests, tout est enregistré, le crayon n'existe plus, et on a des images du test, on a des pourcentages, et on enregistre les réglages d'une fois sur l'autre, on peut les modifier. On a un outil parfait, compact, qui ne coûte rien. Pratiquement, puisque ça coûte 1000 euros. Mmh. Grosso modo, avec un casque, une carte son, un deuxième casque et deux manettes. En plus, il y a un peu l'ordinateur. Mais bon, ça ne coûte rien. Le logiciel est offert à tous ceux qui font la formation.
Ah oui, parce que vous formez les utilisateurs, voilà. Thérapeutes d'Hyperion.
Voilà, on forme, oui, à condition qu'ils soient déjà eux-mêmes thérapeutes, parce qu'on veut qu'ajouter un petit plus. Alors, c'est des orthophonistes, des ostéopathes, des kinésiologues, voilà, des gens qui ont déjà des médecins, des psychologues, des gens qui ont déjà, disons, l'habitude du patient. Parce que le plus difficile dans tout ça, c'est la relation thérapeutique. Ce n'est pas l'outil qui est déjà vraiment très élaboré, mais ce qui est difficile, c'est la relation thérapeutique. Car, j'aime à le dire, le meilleur outil, s'il n'est pas proposé au bon moment, s'il n'est pas accepté par le patient, si le patient n'est pas accompagné par un thérapeute qui se donne, ça ne donnera pas grand-chose.
Est-ce que Emmanuel Favreau, Hyperion, continue d'évoluer ? Est-ce que vous êtes à l'écoute non seulement des utilisateurs thérapeutes, mais aussi des patients, j'imagine, qui doivent avoir aussi des retours à faire sur l'écoute et la machine ?
Ben oui, il évolue en permanence. Et c'est justement l'intérêt de l'avoir développé nous-mêmes. C'est que ça permet justement de prendre en compte les suggestions des utilisateurs pour à chaque fois l'ajuster au mieux aux différents besoins. Puisqu'il y a effectivement principalement des thérapeutes, mais aussi des gens qui travaillent dans des laboratoires de langue, qui l'utilisent. Donc, on l'a un peu adapté pour des types d'applications légèrement différents.
Oui, on peut sensibiliser l'oreille pour que l'apprentissage d'une langue soit plus facile.
Justement, parce que chaque langue a des gammes de fréquences légèrement différentes. Et on sait bien qu'on dit toujours que les Français sont nuls pour les langues, parce qu'effectivement, on a un peu moins de sons très très aigus, dans l'extrême aigu en français, alors que d'autres langues l'ont. Et comme il n'y en a pas dans la langue française, on ne les entend pas. Donc il faut stimuler l'oreille sur ces fréquences. On se mettra à les entendre et on parlera plus facilement une langue étrangère.
Et inversement, c'est pour ça qu'on dit que certaines langues permettent d'en apprendre plus facilement d'autres. Il paraît que le russe, le russe permet d'avoir les facilités.
Plus riche spectralement.
L'Hyperion permet de voyager, mais alors il est temps d'écouter, c'est-à-dire de se rendre compte ce que signifient ces sons filtrés, ce qu'ils ont comme effet aussi. Voilà, il est temps d'illustrer. Vous êtes venu, docteur Isartel, avec des sons d'Hyperion, des sons traités. Est-ce que vous pouvez nous dire déjà, avant qu'on écoute, puisque voilà, on va écouter et commenter oui. ce qu'on va entendre.
Alors, écoutez, je vais déjà vous expliquer le principe. On fait 10, 15, 20 séances d'une demi-heure environ de musique filtrée et basculée. Alors déjà, qu'est-ce que ça veut dire ? Pourquoi on filtre ? Pourquoi on bascule ? On filtre la musique parce qu'on coupe les points d'hyperaudition. On fait donc une sorte d'audiogramme, mais un peu plus nourri en fréquence puisqu'on est en tiers d'octave. On fait un audiogramme qui veut dire qu'on détecte les points d'hypersensibilité. Par exemple, la fréquence 4000 Hz est très liée à l'hyperémotivité et la fréquence 6500 Hz très liée au sentiment d'abandon. En plus, Guy Bérard disait « la pointe à 2000 et la pointe à 8000, c'est la dépression nerveuse ». Donc, vous voyez, ça s'enrichit. Donc, on s'intéresse aux pointes. On détecte les pointes par un test et ensuite, on va couper ces pointes-là avec l'équaliseur. Et ça, c'est le filtrage personnel.
Un filtrage adapté au patient.
Parfaitement adapté, puisqu'on peut couper de jusqu'à moins 96 décibels et remonter de 12 décibels, ce qu'on ne fait pas, parce que c'est un peu dangereux de remonter. On remonte très peu, mais on peut couper beaucoup et sur une bande très étroite. On peut monter une fréquence, diminuer celle d'à côté. Il n'y a pas d'interaction d'une fréquence à l'autre, n'est-ce pas ? Emmanuel, c'est vraiment extrêmement carré et ça ne déforme pas la musique. C'est quand même très audible. En revanche, l'extrait que vous allez écouter va être très déformé parce que normalement, ça s'écoute au casque. Et là, j'ai pris une patiente qui fait la cure en ce moment. Elle est vraiment très filtrée. Alors, premier effet, le filtrage personnalisé et en oreille séparée, ce que vous n'entendrez pas à la radio. Et deuxièmement, oui. un bascule qui a un effet de rééducation. On atténue les graves et on atténue les aigus. Et vous verrez, ça empêche le patient d'anticiper et de corriger les réglages. Et ça lui fait une sorte de rééducation. Prenons par exemple quelqu'un qui a des lunettes roses. Vous lui mettez les lunettes sur les yeux, il s'habitue aux roses, il corrige D'accord. Mais là, vous prenez les lunettes, vous les montez, vous les descendez, vous ne pouvez pas vous habituer aux roses. À chaque fois, vous avez l'adaptation. C'est l'effet de rééducation. Les 15 premières secondes d'écoute, c'est une musique normale que vous allez entendre. Ensuite, entre 15 et 30, la musique aura le filtrage d'une patiente sans l'effet de bascule grave aigu. Ensuite, entre 30 et 45 secondes, on aura filtrage plus bascule. Alors là, c'est ce que le patient entend. Puis ensuite, je retire le filtrage personnel. Et ensuite, je retire tout. C'est-à-dire qu'on revient à la musique d'origine pour que vous voyez bien la différence.
Voilà. Et on commence par musique normale pour se rendre compte. Donc c'est 3 O'Clock Blues et c'est B.B. King et Eric Clapton, aussi qui ne gâche rien. Là, on est dans le premier filtrage, hein, c'est ça ?
Filtrage personnel. Et là, la bascule intervient, renforcement des graves et des aigus alternativement.
Successif, c'est les lunettes roses et pas de lunettes. Alors là, il n'y a plus que la bascule.
Que la bascule. Et la musique normale.
Donc là, on entend, docteur Isartel, c'est Eric Clapton. Donc filtré, j'imagine, des effets développés par vous, Emmanuel Favreau. Est-ce que la nature de la musique joue aussi ou pas ?
Écoutez, c'est une bonne question. Je ne peux pas y répondre complètement parce que c'est extrêmement subjectif. Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai passé un hiver à écouter 4500 morceaux de musique et j'en ai sélectionné 550. Il y a évidemment du blues et c'est sur le blues que c'est le plus facile d'entendre les modifications. Mais il y a énormément de Mozart et de Marin Marais. Mais contrairement à ce que disait Thomas, dans la musique classique, il y a très peu d'aigus. Et moi, je voulais avoir vraiment toute la gamme. D'autre part, j'ai choisi des musiques qui pulsent, c'est-à-dire qu'il y a, une dynamique. Et il faut qu'elle me plaise parce que c'est ma discothèque personnelle. Donc après, chacun met sa discothèque personnelle. Et voilà. Alors maintenant, il y aurait sûrement des recherches plus importantes à faire ultérieurement. Mais le filtrage est déjà tellement fort, tellement puissant, qu'en général, ça marche, sauf chez les gens qui sont récalcitrants, parce que la musique filtrée les change tellement. Une musique classique filtrée, c'est un peu dérangeant pour des mélomanes. Il y en a un ou deux pour qui ça a été difficile, la cure.
Alors, ce dont on se rend compte en vous écoutant, docteur Isartel, c'est qu'on est à la fois dans un domaine où les essais ont déjà été faits. Il y a une histoire de cette démarche-là, et une démarche scientifique précise. On est dans des mesures de fréquence, donc ça n'est pas fait au hasard. Et en même temps, on est aussi dans l'impalpable, dans le subjectif parfois. Et quand on dit que le son et la musique, et notamment en termes de soins, en termes de thérapie, est une caractéristique impalpable, ça c'est quelque chose qui, Isabelle Julien, vous plaît, en tout cas, s'intègre dans votre réflexion de musicothérapeute aussi.
Oui, l'impalpable, bien sûr. Le son donne accès à quelque chose que les patients que j'ai en psychiatrie adulte et en pédopsychiatrie ne peuvent pas verbaliser. Donc, bien sûr, la musique sert de médiateur, de révélateur. Et c'est à travers ce qu'on verbalise sur la musique ou ce qu'on ressent sur la musique ou ce que le corps dit en écoutant la musique qu'on élabore quelque chose et que justement on s'occupe de ce relationnel tellement difficile.
Relationnel, la musique qui peut servir de plateforme d'échange alors, c'est ça ?
Oui, plateforme d'échange, mais l'échange, ça sous-entend que tout est verbalisable, ce qui n'est pas le cas. Je vais prendre l'exemple d'un enfant prématuré donc qui a vécu beaucoup de sons, hein, je crois que vous en parlerez tout à l'heure, beaucoup de sons, de tuyaux, de bruit, de bip, enfin bon. Cet enfant, il a un vécu. On peut imaginer qu'on n'a pas de vie psychique quand on est préma. Mais en fait, cet enfant en musicothérapie, la première chose qu'il a faite, c'est justement de prendre des tuyaux et de recommencer à faire des bruits de tuyaux, des bruits de voix dans les tuyaux, des rythmes dans les tuyaux. Et on voit bien que ce qu'on élabore, ce n'est pas une capacité à avoir une bonne oreille, etc., qui par ailleurs est intéressante et source de recréation de liens avec des patients, par exemple adultes, mais avec un enfant qui n'a pas du tout accès à la parole et qui ne peut pas avoir de vécu de son histoire de préma autre que des traces comme ça sensorielles, en fait c'est une façon pour lui d'élaborer quelque chose de sa vie d'avant qui a été assez difficile et assez incompréhensible pour lui.
Vous parlez, je crois, de traces archaïques, c'est ça ?
Une trace archaïque, complètement archaïque, oui. Et qui ne passeront jamais par la parole. Et c'est là où on voit que c'est intéressant d'avoir cette médiation qui, à la fois, le verbe et la musique ont en commun d'être sonore. Hein. Ça, c'est Edith Lecourt qui nous l'a beaucoup transmis à travers sa théorisation du sonore. Et c'est justement quand on pense la musicothérapie en termes de le sonore est commun au verbal et au musical, que là, on ouvre un champ pour la relation et qu'avec certains patients, le petit préma, ça va passer par du pur sonore. D'autres patients, ça va passer par du musical. D'autres patients, ça passera par la voix. D'autres patients, ça va passer par des agglomérats de sons produits en improvisation et qui vont leur redonner accès à quelque chose de leur vie passée, d'un traumatisme. Enfin, vous voyez, c'est... Après, là, on combine pour chaque participant, en fait.
Oui, oui, ce qui va avec l'impalpable, c'est aussi l'adaptation, l'adaptabilité du soignant.
Ah, complètement. Ouais. Voilà. Il y a une chose qui n'est pas adaptable, c'est la médiation. C'est un peu ridicule de dire ça, nous qui sommes tous attachés au son et à la musique, mais la médiation sonore, par définition, elle n'est pas traficable, elle n'est pas bougeable, elle n'est pas, on peut jouer avec, on peut changer des fréquences, mais le sonore en lui-même, c'est une dimension qui est incontournable. Alors bien sûr, ça permet de mettre cette solidité de la médiation au milieu de la table et du coup, de pouvoir bien sûr être très souple et de pouvoir gérer tous les matériaux psychiques, corporels, enfin tout ce qui émerge de ce cadre en fait.
Est-ce que d'après vous, est-ce que c'est exagéré de dire que, étant donné qu'a priori le premier sens qui se développe à l'intérieur du ventre de la mère pour le futur enfant, c'est l'ouïe, voilà, le souvenir, le premier souvenir, est-ce qu'on peut parler de souvenir, la première trace, comme vous disiez, peut être vraisemblablement la voix de la mère, ou peut-être des voix venant de l'extérieur, des sons venant de l'extérieur. Est-ce que c'est ça qui donne son pouvoir à la musicothérapie, à la sonothérapie, puisque vous parlez de son vous-même?
Alors là, on peut vraiment faire des résonances avec vous, docteur Isartel, parce que effectivement, la voix qu'un fœtus entend dans le ventre de sa mère, c'est une voix qui n'est pas la voix que nous entendons tous là.
Elle est filtrée.
Elle est filtrée naturellement, voilà. Et la voix du père ou la voix de ce qui fait fonction de père à l'extérieur est aussi filtrée. Donc en fait, c'est là où c'est intéressant de faire des ponts. C'est que, bien sûr, on imagine que travailler sur le filtrage, ça remet en lien avec une capacité d'écoute humaine que nous avons acquis déjà dans le ventre de notre mère.
Docteur Isartel.
Et alors, justement, dans le ventre de la mère, ce qui fait le plus de bruit, c'est le cœur, déjà, le rythme cardiaque. Et j'espère qu'avec la bascule, on recrée un petit peu cela. Et puis, les bruits hydroaériques, les gargouillis, enfin, ça fait un bruit terrible. Et contrairement à ce que Thomas a dit longtemps, la voix de la mère n'est pas filtrée au-delà de 8000 Hz. Il a compris tout à l'envers. Et les gens qui ont étudié cela très bien savent que dès 100 Hz, on entend très bien, et les aigus, on les entend plutôt moins bien que les graves, dans le ventre de la mère. Mais c'est très intéressant. Alors, il y a aussi quand même une autre stimulation en dehors des oreilles qui se développe assez tard quand même au cours de la gestation. Et puis, ça ne se développe pas du jour au lendemain. C'est un apprentissage progressif. C'est les sens, l'organe des sens. Quand la maman se met sur le côté, quand elle se met sur le ventre, l'enfant sent la position, les pressions, etc. Donc, le sens...
Le sens du toucher.
Du toucher, les sensations se développent énormément. Énormément. Et là, je voudrais rebondir sur ce que disait madame, qui est vraiment très intéressant. C'est que nous, on peut s'occuper des enfants qu'à partir de 6 ans, puisqu'on fait un test. En dessous, on ne peut pas. Mais ce qu'il y a vraiment d'intéressant dans la musique... C'est que nous, on propose la musicothérapie qui, en termes de, par exemple, antidépresseurs ou anxiété, est absolument formidable. C'est-à-dire que ça marche aussi bien que les antidépresseurs, et même plus vite. Eh bien, ce qu'il y a de très intéressant, c'est qu'on n'a pas besoin de discuter avec le patient au départ. Ce sont souvent des gens qui ne veulent pas parler. Ce n'est pas psychologique, c'est rien. Non, nous, on traite avec la musique. Et ce qu'il y a d'incroyable, c'est que dans l'année qui suit... La cure Hyperion, avant c'était la cure Bérard, maintenant c'est Hyperion, ils vont vers un travail sur eux-mêmes. Et ça, c'est vraiment très intéressant, puisqu'ils deviennent acteurs de leur vie, ils ont du recul, de la lucidité, et ils se dirigent vers eux-mêmes, vers le rêve éveillé par exemple, ou une autre technique de psychothérapie.
Isabelle Julien, ce que permet aussi la musicothérapie, c'est un travail en groupe aussi.
Oui, alors effectivement, on peut faire du travail individuel, du travail en groupe. Et bien sûr, dans chaque cadre, ce n'est pas les mêmes choses qui vont jouer. Hein. On se doute bien qu'une relation à deux, dans un cadre de musicothérapie, ça va favoriser beaucoup un transfert, duel, enfin bon. Alors que le groupe, il y a à la fois, c'est un double axe de travail, c'est pour ça que c'est extraordinaire, c'est que à la fois il y a la dimension groupale qui se joue et qui se joue indépendamment du thérapeute. Le groupe ne nous demande pas la permission pour élaborer sa propre vie psychique. Hein. Et puis, il y a des transferts qui se passent entre les patients et bien sûr, c'est ça qui est très dynamique, qui produit beaucoup d'éléments d'élaboration à élaborer. Et comme c'est doublé avec le son et la médiation qui fait qu'on, par exemple, on peut dire à quelqu'un qui est en face de vous, qui a joué du djembé beaucoup trop fort et que ça vous a percé les oreilles. En plus, moi, je travaille avec des malades mentaux en psychiatrie. Donc, la dimension de l'effraction est très, très importante puisque, justement, l'enveloppe sonore n'a pas été bien formée. Et donc, tout son qui rentre est en fait une agression. Hein. Et donc, c'est de pouvoir dire à la personne à qui on aurait envie de tordre le cou parce qu'il nous a fait trop mal alors que la personne n'a fait que jouer. Hein, et qu'en plus, moi, j'invite à jouer aux participants qui sont là en mettant plein d'instruments, beaucoup de matériaux très différents.
Des percussions, vous parlez de djembé, mais il y a d'autres choses.
Des percussions, beaucoup d'instruments et des instruments du monde entier, puisque j'ai des patients d'origine culturelle différente. Donc, je n'ai pas pu, quand j'ai commencé il y a 20 ans à l'hôpital, arriver avec mon Chopin. Le Chopin, ça va faire du bien à tout le monde. Mais non, il y avait des réfugiés du sud-est asiatique. Chopin, pour eux, ça n'évoquait pas du tout la même chose que pour moi, voilà. Donc j'ai dû apprendre à travailler tout de suite. En fait, c'est comme ça que j'ai développé une pratique sur le sonore. C'est que la seule chose que j'avais en commun avec des gens du sud-est asiatique ou d'Afrique, c'était que nous avons tous entendu une maman in utero, nous avons tous eu une oreille qui est devenue aérienne au moment de la naissance, nous avons tous entendu des oiseaux, normalement, quelque chose comme ça, et nous avons tous dû apprendre que ce son-là, ah tiens, c'est maman qui arrive pour me prendre dans ses bras. Voilà, on est tous passés par cette élaboration. C'est ça qui fait qu'on devient humain, en fait. Mmh. Hein, c'est qu'il y a un chaos sonore autour de nous et que nous apprenons à discerner que tel son qui s'associe avec tel autre son, c'est ce qu'on va faire avec la langue d'une façon démultipliée plus tard. Hein. Mais en fait, l'oreille commence déjà à apprendre à cerner des sons et donc se rendre compte que quand on entend ça, puis ça, puis ça, c'est bon, on est sauvé, maman arrive. Mmh. Voilà. Et c'est ça qui nous forme. C'est ça qui est aussi, je pense, enfin moi en tout cas, je le crois, c'est l'aube de la vie psychique mmh. qui se tisse à ce moment-là.
Et pour revenir sur ce que vous disiez, sur ce que vous avez commencé à dire, sur
alors voilà, un patient qui fait trop de djembé, ouais. Eh bien, au lieu de lui dire « je vais te casser la gueule à la sortie » ou de ne pas le dire, mais de lui casser la gueule en vrai à la sortie, on peut dire « mais ton tambour, il fait trop de bruit ». Et c'est comme ça que j'ai entendu des grands, grands déprimés, psychotiques, hein, mais en plus très déprimés, dire à quelqu'un qui avait eu un accès maniaque, c'est-à-dire beaucoup d'énergie, pas du tout métabolisée, balancée sur un gros djembé comme ça, oh, « c'est extraordinaire toute cette énergie que tu as, j'en voudrais moi un tout petit peu de tout ce que tu as ». Voyez, et là, on est dans la transformation. C'est-à-dire que la chose qui est arrivée, les affects dépressifs se sont exprimés, le côté maniaque s'est exprimé, et c'est le cadre qui fait qu'on va parler des instruments. Si les gens ne le font pas naturellement, je les guide sur parler de l'instrument. Et c'est là où on retourne la chose et on commence à construire autre chose. Voilà.
Donc ça, ce qu'on entend, c'est un morceau qu'on trouve sur un disque intitulé « Musique en marge » qui rassemble des éléments d'art brut musical, en quelque sorte des malades donc, qui font de la musique et qui parfois l'expliquent. Et là, c'est Anton et Quentin. Quentin est autiste et il ne parle pas, mais Anton, son frère, fait tout pour qu'il ait une vie normale, il l'accompagne. Il se trouve que Anton et Quentin, leur histoire fait l'objet d'un documentaire sonore qu'on peut trouver en ligne, qui est signé Vincent Matine. Et on trouve donc Anton et Quentin sur cette compilation, on va dire, alternative, musique en marge. On les entend tous les deux.
Vous écoutez l'atelier du son, Thomas Baumgartner sur France Culture.
Dans votre pratique, Isabelle Julien, la voix des patients, ça on l'a compris, ils comptent évidemment beaucoup. Mais la vôtre compte, j'imagine.
Oui.
Vous êtes chanteuse, non ?
Oui. Enfin, je suis chanteuse. Oui, j'ai beaucoup travaillé le chant, voilà. Plusieurs formes de chant différentes. Et effectivement, quand j'entends cette musique, je trouve ça très touchant parce que justement, on entend que la voix de l'enfant qui suit l'instrument, c'est une voix qui s'adapte au halo et qui commence à former des intervalles. Enfin, bon, c'est pas encore très précis, mais on entend bien qu'il y a quelque chose qui se passe dans cet extrait que vous passez. Hein. Alors, la voix, bien sûr, on peut travailler dans une forme de musicothérapie vocale, c'est-à-dire faire travailler des personnes qui ont envie de développer quelque chose autour de leur voix. Et évidemment, la musicothérapie va faire qu'on ne va pas seulement travailler sa voix comme on le ferait avec un professeur de chant, mais on va travailler les émotions qui viennent avec, les émotions et pas seulement les émotions, les associations. C'est-à-dire qu'on va utiliser toute l'énergie qui circule dans le corps d'une certaine façon, à certains endroits, certaines fréquences, pour réarticuler la personne dans tous ses espaces internes, en fait, psychique, corporel, etc. Et puis, bien sûr, la voix des thérapeutes est très importante parce qu'elle induit beaucoup de choses. Vous doutez bien que si je commençais à dire à mes patients « Mais pourquoi tu prends pas ça ?» c'est terminé. Voilà. Ça peut être intéressant parce que tout d'un coup, le patient peut se dire « Tiens, elle me parle comme ma mère. » Et bon, enfin, on n'est pas là pour jouer. On est là pour travailler sérieusement avec nos patients. Et donc, je pense que tout ce qu'on dit est supporté par une voix, et la voix dit notre corps. Et la voix dit la capacité de notre corps à être souple à l'intérieur de lui, et donc d'entendre des gens complètement coincés dans un endroit. Et quand je dis endroit, je parle d'espace psychique. Que voilà, si on est dans quelque chose de très tendu, est-ce qu'on peut imaginer qu'un jour on trouvera une détente et bien sûr qu'on va... On va se projeter de diaphragme à diaphragme. Enfin, voilà, je pense qu'il y a un transfert corporel et vocal très important dont peu de thérapeutes parlent, mais qui est pourtant bien présent.
Oui, le son, c'est de l'air projeté, de l'air qui vibre, qui va vers le voisin, qui va à travers l'espace. Le son et l'espace, et comment se positionner par le son dans l'espace, c'est une question qu'on aurait pu aussi se poser en parlant de musicothérapie ce soir. Mais il y a tellement de chemin pour parler de son et de médecine et de soins qu'il a fallu en choisir quelques-uns. On parlait de voix à l'instant avec vous, Isabelle Julien. Gaëlle Perrault-Brensinger, vous, la voix. La voix, vous en parlez dans ce mémoire que vous avez fait, mémoire dans vos études d'infirmière sur les sonorités dans le bloc opératoire. Donc ça, c'était un angle assez particulier qui, en même temps, permet de parler du son et du soin dans pas mal de directions. Mais le premier son, finalement, qui est peut-être capté par le patient, qui est quand même au centre de tout ce qu'on se dit ce soir, et en particulier donc au centre de ce mémoire, le premier son qui marque peut-être le patient, en particulier quand il est devant, avant d'entrer dans le bloc opératoire, c'est la voix des médecins, la voix du chirurgien, la voix des infirmières. Donc et on ne parle pas n'importe comment dans un bloc opératoire, en tout cas tant que le patient n'est pas endormi.
Tout à fait. Alors, il faut savoir, effectivement, comme tout le monde sait, on a le bloc opératoire, on pense toujours que c'est très silencieux, on est concentré sur l'intervention. Il y a beaucoup de bruit, bien sûr, lié à des machines, à la ventilation, enfin plein d'accessoires autour utiles et nécessaires. Néanmoins, le patient à l'extérieur déjà du bloc entend beaucoup de choses. Et il faut savoir que vous parliez effectivement tout à l'heure d'une certaine rencontre qui doit se faire d'une enveloppe sonore. Il est imprégné déjà en attente de son intervention, de bruit parfois qui se déroule déjà dans le bloc dans lequel il va passer tout à l'heure. Il est dans une fragilité, bien sûr, parce qu'on ne vient pas là simplement... on vient réparer quelque chose, ou en tout cas poser un diagnostic sur ce qui
pose problème,
ce qu'il porte en lui. Et à ce sujet, effectivement, il y a des effractions sonores qui ne sont pas toujours bien perçues et qui commencent à se dérouler déjà. Il est prémédiqué également, donc il y a peut-être déjà des filtres qui fonctionnent autrement.
Vous voulez dire que prémédiqué, ça veut dire qu'il y a déjà eu du médicament et peut-être qu'on est dans une forme
c'est-à-dire
de flou.
C'est-à-dire que déjà, il est à jeun, il est un peu dans le flou, dans le coton, parce qu'effectivement, on donne un peu des myorelaxants, enfin des légères substances pour le mettre dans un effet un peu cotonneux, pour qu'il soit un petit peu atténué au niveau de son anxiété.
Dans votre mémoire, un soignant, je ne sais plus si c'est un médecin ou une infirmière, qui dit on récupère au réveil le patient dans l'état où on l'a laissé.
Exactement. C'est-à-dire que l'endormissement.
Un stress peut empêcher un endormissement
tout à
plus
fait.
Simple et aussi un réveil.
On est obligé d'autant plus de mettre plus de produits anesthésiants parfois quand l'anxiété est trop forte.
Alors docteur Isartel, vous avez été anesthésiste, vous avez fait 8 ans de bloc opératoire, vous faisiez attention au bruit, au son ?
Non, je n'étais pas du tout chef. Hein. J'étais faisant fonction interne puis attaché. Donc je n'avais pas vraiment voix au chapitre. Je préfère le libéral à cet égard. Mais ce que dit Madame Gaël est tout à fait juste. Pour qu'une intervention se passe bien, il faut rassurer le patient déjà avant, lors de l'examen préopératoire. Il faut lui donner un petit sédatif la veille au soir, une bonne prémédication le matin. Et quand il arrive serein au bloc opératoire.
Pas toujours, hein, ça
oui,
n'empêche
pas. Toujours,
pas.
Non.
Mais justement, je pense
serein,
à ce moment-là, en tant que soignant, je me permets, quand le patient arrive au bloc, nous, qu'est-ce qui nous reste de l'humain ? On est habillé de haut en bas, on porte un masque, la voix est masquée, il nous reste le regard, le toucher, les sens peuvent être éveillés, lui-même est en hyper sensibilité par rapport à ça. Et effectivement, l'accueil au bloc, le bloc est glacé, froid, mais comme je dis souvent, nous sommes chaleureux. Et c'est le ton de notre voix, notre coloration, notre façon d'accueillir qui va primer.
Voilà. Mais lorsque, ce que vous dites aussi dans votre mémoire, Gaël Perrault, c'est que le son n'est pas que parasite. C'est-à-dire qu'il y a quand même il y a des sons qui sont là pour orienter l'opération, qui sont là pour alerter le cas échéant, qui sont là pour donner des informations. Et ce qu'on comprend aussi à la lecture de votre mémoire, c'est que tout son, qu'il soit parasite ou pas, qu'il soit bruit ou son, ou même musique à la limite, est considéré comme une information potentielle, d'où voilà, la grande difficulté, en tout cas la possibilité de générer du stress, y compris pour les équipes soignantes, parce que tout son, émanant du corps, émanant des machines, est une information dans un sens ou dans un autre.
Exactement. En fait, le sens de du son produit va pour quelqu'un qui va... Le soignant a une autre signification que celle pour le patient, que pour le médecin anesthésiste. Le chirurgien veut se préoccuper sur ce sur quoi il est en train de travailler. Et parfois, il veut de la musique pour avoir un fond de base sonore qui lui permette la concentration. Et il va être exaspéré par le scope, le bruit du cœur du patient qu'on va entendre de façon métronomique. Parce que véritablement, on a une symphonie chirurgicale avec des températoires. Alors, vous remarquerez que la luminosité également influe sur le son. Plus vous faites des chirurgies où on a besoin de faible intensité lumineuse, comme la célioscopie, comme le travail en microscope, effectivement, les gens murmurent, en ophtalmologie notamment, les gens travaillent à bas bruit, le silence est très souvent respecté ou un fond sonore très bas. Et effectivement, dans d'autres endroits, ça va être beaucoup plus bruyant.
Alors, on entend là un extrait de l'album « A chance to cut is a chance to cure ». Donc, l'occasion de couper, c'est la possibilité de guérir. C'est signé du duo Electro Matmos, duo californien. Ce morceau s'appelle LASIK, ou LASIK, L-A-S-I-K, qui est en fait un outil pour soigner les problèmes à l'œil, les cataractes, voilà. Oui. Et tout l'album, quasiment tout l'album, A Chance to Cut is a Chance to Cure, c'est fabriqué à partir de sons qui ont été enregistrés dans des blocs opératoires. Je crois que les deux membres du duo Matmos sont les enfants de médecins. Donc ils ont peut-être été, ce son dès la naissance était peut-être... C'est peut-être le son de médecin. Ah, vous reconnaissez des sons.
Je crois entendre, parce que j'ai fait en tant que futur diplômé, bien sûr, des stages en différents types de blocs opératoires. En ophtalmologie, professeur Brasseur, pour ne pas le citer, du CHU de Rouen, je me souviens qu'il parlait du phacoémulsificateur, c'est peut-être ce qu'on entend. Il parlait, j'adore entendre ce bruit, c'est un bruit de cigale pour moi. Mmh. Et en fait, c'est un bruit qui permet de... En fait, c'est des ultrasons qui vont lyser, c'est-à-dire détruire le cristallin qui va être ensuite remplacé par un implant, notamment en chirurgie de la cataracte. Et en fait, cette sonorité lui indique qu'il est dans la bonne matière, effectivement.
C'est de l'information.
C'est de l'information sonore. Et effectivement, on a plusieurs possibilités comme ça d'utiliser le son dans la guidance de l'acte chirurgical, où même la voix de la patiente ou du patient est absolument nécessaire.
Est-ce qu'il y a des limites légales, Gaëlle Perrot, de son, de niveau sonore à l'intérieur des lieux de soins des... Ah, je vous oblige à aller chercher dans vos notes.
Oui, mais ça va
parce
se
que
retrouver
j'ai vu dans,
facilement.
J'ai vu dans votre mémoire qu'il y avait des limites qui étaient conseillées, je crois, aux États-Unis. Vous avez mesuré vraiment les différentes opérations et mesuré le niveau sonore. Et ce qui fait le plus de bruit, c'est l'opération de la hanche. Ça va jusqu'à 80 décibels à l'intérieur.
Oui, vous avez bien lu, effectivement. En fait, ce qui se passe, c'est que j'ai étudié les niveaux sonores selon le type de chirurgie. En fait, un temps moyen de... Voilà, les niveaux sonores de la PTH, notamment, c'était assez mémorable. Mais il faut dire, à leur décharge...
La PTH, c'est la prothèse
totale de hanche, excusez-moi. C'est vrai qu'ils utilisent à leur décharge... Il y a du moteur, des bruits de moteur qui fonctionnent avec de l'air comprimé. Ouais. En fait, il faut savoir qu'on est un peu comme dans un atelier de garage, un peu un bricolage. On travaille sur de l'os, c'est dur, ça impacte. Il y a quand même des moments très forts et donc les niveaux sont extrêmement importants. La césarienne n'est pas négligeable non plus parce que les taux moyens étaient dans les 70-75 et le plus élevé, c'était notamment les cris du bébé. Mmh. Donc là, on est ravis d'entendre ce bruit, oui. Tout va bien. C'est d'ailleurs le premier indice sonore qu'ont les parents qui sont derrière le champ, le drapage. Ils ne voient rien, mais qu'ils entendent le bruit du bébé, ça y est, on est heureux. Tout va bien. Et la cataracte, effectivement, la chirurgie de la cataracte, on était à des niveaux d'une cinquantaine de décibels. Et effectivement, la limite préconisée, c'est de pouvoir travailler à moins de... En fait, 47 décibels, c'est l'idéal. Mmh. Mais effectivement, la fréquence moyenne pour les travailleurs que nous sommes, parce que nous travaillons au quotidien cet univers sonore, ne devrait pas dépasser les 90 décibels. Au-delà, il faudrait avoir l'employeur doit nous mettre des protections. Mmh. Mais là, on rentre dans un paradoxe. Comment pouvez-vous nous faire travailler avec un casque ou des choses qui filtreraient certains bruits, alors que justement, notre vigilance acoustique doit être... Il y a le fond sonore qui ne doit pas forcément être élevé pour justement faire émerger des bruits d'alarme, des bruits... Mmh. Le silence est parfois aussi informateur. Mmh. De choses qui ne se passent pas forcément bien.
Il faut pouvoir être à
l'écoute. Et le bruit, je suis désolée, le bruit, le son, c'est la vie. Mmh. C'est la vie. Et les patients, parfois, réclament aussi certaines choses qui montrent qu'on est dans le quotidien,
dans le normal.
Dans le normal, ouais. Exactement.
Merci beaucoup, tous les quatre, d'avoir été avec nous pour ouvrir quelques pistes sur cette question du son dans la médecine, le son dans le soin. Je vous remercie tous, docteur Jean-Michel Issartel, donc Hyperion, voilà, on a noté Emmanuel.
Hyperion.net.
Hyperion.net, voilà. De toute façon, on met des liens, vous inquiétez pas, sur le site de l'atelier du son sur franceculture.fr. Emmanuel Favreau, merci à vous. Isabelle Julien, merci beaucoup. Et Gaëlle Perrot. Et on se quitte avec un autre extrait de cet album de Matmos, California Rhinoplastie, avec des sons de lifting du front et d'implant du menton. c'est l'Atelier du son, c'est France Culture. Vous aussi, vous en avez une, c'est sûr, en cherchant bien une histoire vraie où le son est central, une présence qui fait basculer l'action ou la réflexion. Une histoire vraie de son, c'est ce qu'on vient chercher à la fin de chaque émission. Ce soir, c'est Allen S. Weiss qui nous raconte, enseignant à NYU, New York University, auteur du premier livre américain sur la radio expérimentale, c'était Fantasmic Radio en 1995, spécialiste de questions liées à l'art sonore, au cinéma, à la performance et aux marionnettes. Il est aussi un amoureux du Japon, ce qui n'est pas anodin en ce qui nous concerne.
Il était une fois, dans les forêts de la Nouvelle-Angleterre aux États-Unis, que j'ai entendu le bruit du vent dans les pins. Depuis, je l'ai vécu très différemment dans les pavillons de thé à Kyoto. Je suis fasciné par les cérémonies de thé japonaises, le chanoyu, littéralement l'eau chaude pour le thé. On dit en effet que le thé est le goût du zen. Alors je ne suis ni buveur de thé, ni adepte de zen. Mais cette cérémonie est essentielle, car elle est à la base de toute esthétique traditionnelle japonaise. On peut même aller jusqu'à dire que la manière d'apprécier un beau paysage est directement influencée par cette esthétique. Et c'est également vrai pour la manière d'écouter le paysage. L'espace de cette cérémonie est un lieu de paix et de concentration aiguë, une sorte d'utopie esthétique. On dit que cette cérémonie doit être faite dans un silence total. Pourtant, il existe ce qu'on appelle les trois sons du thé. Premièrement, le tintement du couvercle sous la bouilloire. Deuxièmement, le bruit sourd du bol sur le tatami. Et troisièmement, le cliquetis de la cuillère en bois sous le bol. Métal sur métal, céramique sur paille, bois sur céramique. Un combinatoire qui détermine la spécificité sonore de la cérémonie. Mais il existe un autre son, un bruit qui fait le lien entre dehors et dedans, entre microcosme et macrocosme, le bouillonnement de l'eau. Il y en a une très belle description par Kawabata Yasunari dans son roman « Pays de neige ». Je cite « La bouilloire ancienne qui lui avait prêté l'aubergiste chantait doucement comme une brise dans les pins. Il pouvait même y reconnaître deux souffles différents, à vrai dire. Le froissement tout proche du vent qui passe dans les branches et le souffle venu de loin. Et, tout faible dans celui-là, comme apporté de plus loin encore, le tintement à peine perceptible d'une cloche. » C'est très beau. Le vent dans les pins est une figure classique dans la poésie japonaise, un véritable lieu commun sonore, à un tel point que qui voit le pin entend le vent. Cette métaphore est extensible. Okakura Kakuzo, dans son célèbre livre du thé, écrit que, et je cite encore, « La bouilloire chante bien, que l'on a pris soin à disposer au fond des morceaux de fer, de façon à produire une mélodie particulière, où l'on peut entendre les échos, assourdis par les nuages, d'une cataracte, ou d'une mer lointaine qui se brise contre les rochers, ou d'une averse balayant une forêt de bambous, ou les soupirs des pins sur une colline lointaine. » C'est également très beau. Ce bruit ouvre donc toute une gamme de métaphores sonores. Il y a par conséquent une réciprocité entre les sons de la cérémonie de thé et ceux de la nature. Le chanoyu est pris dans les cycles des saisons, tandis que la nature est sublimée dans la poésie de la cérémonie. Un des plus beaux exemples de cette résonance est le célèbre morceau pour flûte shakuhachi, Matsukaze, littéralement « le vent dans les pins ». Le vent éphémère passe à travers la forêt de pins, symbole d'éternité, comme on passe un matin dans un pavillon de thé. Les Japonais appellent ce sentiment « mono no aware », le pathos de l'impermanence des choses. Écoutez.
Thank you.
C'était l'écrivain américain Allen S. Weiss et une histoire de son japonaise dans l'atelier du son. L'atelier du son sur France Culture s'est terminé pour ce soir. Vous pouvez retrouver les commentaires, la réécoute et l'abonnement au podcast sur franceculture.fr. L'émission était préparée et coordonnée par Inès De Bruyne, réalisée par Véronique Lamandour. Au son ce soir, il y avait Bruno Martin. Merci à tous ceux qui ont suggéré des liens, des pistes pour l'émission de ce soir autour de la médecine et du son. Ils sont nombreux grâce aux réseaux sociaux. Merci beaucoup. Et tout de suite, vous retrouvez Aurélie Charron. Bonne suite de nuit à vous sur Culture. Et à vendredi prochain.
Merci Thomas. Bonne suite de nuit à vous. La semaine prochaine, voilà ce que vous pourrez entendre dans les ateliers de la nuit. Mardi soir, dans l'atelier fiction, On dormira quand on sera mort, de Karine Lacroix, qui fait parler la nuit, ce moment où les vivants et les morts se croisent et se réconcilient. Mercredi soir, âme te souvient-il ? Sylvie Gasteau est partie de la phrase de Léo Ferré. Les gens, il conviendrait de ne les connaître que disponibles à certaines heures pâles de la nuit, près d'une machine à sous, avec des problèmes d'hommes simplement, des problèmes de mélancolie. Sylvie Gasteau suit les conversations nocturnes au comptoir des bars, en compagnie du chanteur et auteur Loïc Lantoine. Jeudi soir, l'atelier de création radiophonique géopolitique Le soldat sans tête d'Amandine Casadamon et Angélique Thibault. 100 ans se sont écoulés entre la guerre de 14 et aujourd'hui. Les sons de la guerre se sont transformés. Le bourdonnement d'un avion de chasse téléguidé s'oppose aux affrontements de terrain à la baïonnette. Le corps à corps a laissé place à la guerre de distance, sans contact physique. Ce sera une plongée dans les sons de la guerre. Enfin vendredi, dans son atelier du son, Thomas Baumgartner fêtera les 20 ans de la compagnie Ouïdir. Je vous dis à lundi pour l'atelier intérieur. Nous serons en direct de 23h jusqu'à minuit. En attendant, n'oubliez pas que les ateliers de la nuit sont à écouter, à réécouter, à podcaster. Tout est sur le site internet. Vous écoutez France Culture, il sera bientôt minuit et dans quelques instants, vous retrouverez Christine Goémé, l'éloge du savoir.